Vous êtes sur France Culture, les informations de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Ils vont franchir les portes des écoles, collèges et lycées dans quelques heures. C'est la rentrée ce lundi pour près de 12,5 millions d'élèves, pour 880 000 enseignants aussi. Parole d'une professeure stagiaire qui saute dans le grand bain. Parole à venir. Le prélèvement à la source et ses questions encore ce matin. Le président de la République vérifie tout avant d'appuyer sur le bouton. Voilà ce qu'explique la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Nous vous expliquerons pourquoi cette réforme est si compliquée à mettre en place. Dans cette édition encore, nous irons à Quito, en Équateur. C'est là que 13 pays d'Amérique du Sud vont se réunir aujourd'hui et évoquer les migrants partis par dizaines de milliers de Venezuela. Et puis retour sur les obsèques du chef rebelle pro-russe Alexander Zakharchenko. C'était hier à Donetsk. L'heure de la rentrée va donc se faire ce matin pour plus de 12 millions d'élèves. Une rentrée marquée par de nouvelles mesures, comme la multiplication des évaluations au CP, en CE1, en 6e et en seconde, ce qui provoque déjà le mécontentement de certains syndicats d'enseignants. Cette marquée marque aussi le dédoublement des classes de CE1 en zone d'éducation prioritaire, en REP+, et ce après les CP l'année dernière. L'arrivée des chorales dans les collèges, un enseignement facultatif, est aussi à la une de cette rentrée, ainsi que l'interdiction des téléphones portables hors usage pédagogique. Voilà pour les changements auxquels élèves et professeurs vont devoir s'habituer. Les professeurs qui, pour certains, doivent aussi s'habituer à un nouvel établissement, une nouvelle vie, ce qui n'est pas toujours facile après un été compliqué. Écoutez à ce propos Charlotte, jeune professeure stagiaire qui quitte le sud de la France pour l'Académie de Créteil.
Ça a été très compliqué parce que c'est une affectation qui est tardive. Moi, je travaillais donc dans le sud-ouest. Rien que pour trouver un logement, ça a été vraiment le parcours du combattant. Tout le monde est en vacances. On nous parle de logements sociaux. Voilà, il y a peut-être quelqu'un pour faire une permanence, mais uniquement en téléphonique. Concrètement, j'ai envoyé mon dossier début juillet. Il n'a jamais été traité. L'été, tout est éteint, tout est fermé. Donc c'est silence radio et c'est vraiment se débrouiller soi. Il faut vraiment, vraiment, sincèrement être motivé pour venir jusqu'ici enseigner.
En plus, il y a le prix, il y a le loyer. Et puis quand on est professeur stagiaire comme vous, on n'a pas un gros salaire.
Voilà, alors c'est très compliqué. Alors j'ai la chance d'avoir un compagnon exceptionnel et qui m'aide, qui est derrière moi et qui a pu me prêter de l'argent pour pouvoir commencer ma rentrée justement. Mes parents, alors que j'ai 28 ans, m'ont également aidé. Des amis, de la famille m'ont prêté aussi de quoi me meubler. Je suis arrivée, là pour l'instant je dors sur un matelas gonflable. Donc sincèrement, s'il faut en vouloir et c'est pas facile.
Un témoignage de Charlotte, professeure stagiaire interrogée par le spécialiste éducation de France Culture, Hakim Kasmi, que nous retrouverons tout au long de la matinée. Emmanuel Macron doit annoncer le nom du successeur de Nicolas Hulot aujourd'hui ou demain. Pascal Canfin, le président de WWF France, pourrait lui succéder. En tout cas, ce ne sera pas Daniel Cohn-Bendit. L'ancien eurodéputé dit garder sa personnalité et sa liberté. Il n'ira pas donc au ministère de la Transition écologique. L'écologiste est le président Emmanuel Macron l'ont décidé ensemble. Le nommer au ministère aurait été une fausse bonne idée, dit Daniel Cohn-Bendit. En ce début de semaine, Emmanuel Macron va aussi devoir trancher sur un dossier épineux, celui du prélèvement de l'impôt à la source. Le dispositif doit être mis en place en janvier prochain, mais le fisc a relevé 350 000 bugs avec des prélèvements en double ces derniers mois. Des soucis qui ont été réglés, précise le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Mais la complexité du système fiscal est indéniable, Isabelle Chailloux.
Le prélèvement à la source est la plus grande réforme de l'impôt sur le revenu depuis sa création. Le ministre Gérald Darmanin a répété à l'envi cette formule, en partie inexacte. La réforme est ambitieuse, mais elle ne concerne pas l'impôt sur le revenu en lui-même, seulement sa collecte. Et c'est bien tout le problème. La simplicité apparente du prélèvement automatique de l'impôt doit s'appliquer au système fiscal français d'une extrême complexité. 5 tranches d'impôt sur le revenu, alors qu'il n'y en a que 2 ou 3 chez la plupart de nos voisins. Un impôt où le contribuable ne paie pas qu'en fonction de ses revenus, mais aussi de sa situation familiale. Et une multitude de niches et exonérations fiscales pour les emplois à domicile, les investissements locatifs ou encore les travaux de rénovation énergétique. L'Allemagne, les États-Unis, la Belgique, le Royaume-Uni ou encore les Pays-Bas, tous prélèvent l'impôt à la source depuis des décennies. En France, la première tentative date de 1973. Depuis la mise en place de la réforme, est un serpent de mer sans qu'aucun gouvernement ne se soit attaqué à une remise à plat profonde du millefeuille fiscal.
Alors que décidera l'exécutif? Il donnera sa réponse demain après une semaine d'hésitation et de contradictions rendues publiques. Le mois qui vient d'ailleurs pourrait être un tournant pour Emmanuel Macron et sa politique. Retrouver le cap au risque d'être fragilisé durablement. Voici ce que nous explique le politologue Olivier Roucan au micro de David Ravier.
On a vu par le passé, aussi bien avec Nicolas Sarkozy, mais même Jacques Chirac lors de son quinquennat ou François Hollande, qu'un président qui multiplie les erreurs, dans tous les cas qui devient moins audible dans l'opinion publique, a moins de capacité à entraîner et donc à réformer ce décrochage de l'opinion publique, s'il devait être confirmé, entravera la marge de manœuvre du président et l'application des lois aussi. Il faudrait qu'il soit en mesure d'écouter et d'offrir une réponse à un certain nombre d'acteurs, notamment sur les politiques sociales. Donc on va attendre le plan de lutte contre la pauvreté, notamment, mais pas seulement. Écologie, même chose. Ce qui est attendu finalement, c'est une clarification d'un certain nombre d'objectifs qui devraient se faire maintenant très vite, parce que depuis l'été, s'est installée l'idée que ce pouvoir hésite, qu'il recule. Donc il faut rapidement mettre fin à cette situation d'incertitude.
Les flammes ravagent en ce moment le musée national de Rio de Janeiro au Brésil. C'est l'un des plus anciens musées du pays avec plus de 20 millions de pièces de valeur, animaux, insectes, momies égyptiennes et autres trouvailles archéologiques. L'une des plus grandes collections d'Amérique. Le feu s'est déclaré vers minuit sans faire a priori de victimes. On ne connaît pas les causes de ce gigantesque incendie. Une perte inestimable pour le Brésil, dit déjà le président Michel Temer. Ils vont discuter du flux important de migrants qui fuient le Venezuela depuis des mois. Les ministres des Affaires étrangères d'Amérique du Sud et des Caraïbes se réunissent à Quito, en Équateur, aujourd'hui. Ils seront 13 au total, Eric Sanson.
En Amérique latine, les pays les plus touchés par l'arrivée massive de migrants vénézuéliens sont la Colombie, le Pérou et l'Équateur dans cet ordre. Mais toute la région est concernée. Cette migration massive et forcée pose des problèmes d'emploi, de santé publique, de sécurité et d'accès à l'éducation pour les enfants vénézuéliens, problèmes qui gagneraient à être traités au niveau régional. Un exemple parmi d'autres, Bogota, Quito et Lima ont déjà annoncé qu'ils allaient partager les renseignements concernant les centaines de milliers de migrants traversant leurs frontières. Le gouvernement colombien a en effet identifié un nombre important de migrants ayant demandé et obtenu des certificats temporaires de résidence en Colombie, mais également en Équateur. Ces personnes reçoivent donc les mêmes bénéfices des deux côtés de la frontière, alors qu'elles ne devraient y avoir droit qu'une seule fois. Selon le directeur de migration colombien, Christian Kruger, cette pratique abusive empêche de nombreux migrants d'avoir accès à toute aide, les fonds destinés à faire face à cette vague migratoire sans précédent n'étant pas infinis. Autre problème que les pays de la région souhaitent résoudre ensemble, celui de la réapparition de maladies comme la rougeole ou la diphtérie suite à l'état calamiteux de la santé publique au Venezuela.
Ils étaient poursuivis pour avoir détenu des documents relatifs aux opérations des forces de sécurité birmanes dans l'état de Rakhine, théâtre du drame des Rohingyas. Deux journalistes de Reuters viennent d'être condamnés à 7 ans de prison en Birmanie. La justice a considéré qu'ils avaient porté atteinte au secret de l'État. L'ONU appelle à l'instant à leur libération immédiate. Le chef séparatiste Alexander Zakharchenko a été enterré hier à Donetsk, capitale de la République autoproclamée du même nom dans l'est de l'Ukraine. Il avait été tué vendredi dans l'explosion d'une bombe dans un café. Et depuis, l'hommage à Zakharchenko semble grossir et le petit territoire sécessionniste, non reconnu, voudrait se servir de cet hommage, Sébastien Gobert.
Ils étaient plus de 100 000 personnes en deuil dans le centre de Donetsk, selon les agences de presse séparatistes et russes. Un chiffre impressionnant, même si impossible à vérifier. Les images montrent une foule dense défiler devant le cercueil fermé d'Alexander Zakharchenko dans le hall de l'Opéra de Donetsk. Le centre-ville est fermé à l'occasion d'une période de deuil de 3 jours. La scène illustre la volonté des autorités de Donetsk de faire de la mort d'Alexander Zakharchenko un moment fondateur de leur jeune embryon d'État. L'intérim du pouvoir a été assuré dans le calme par l'adjoint du défunt, un certain Vadim Trapeznikov. Les éventuelles luttes de clans sont pour l'instant invisibles, en attendant l'élection anticipée d'un nouveau chef. L'exécutif à Donetsk joue l'unité contre les forces de Kiev. De concert avec ses alliés et sponsors à Moscou, il a dénoncé une nouvelle agression de l'Ukraine, arrêté quelques suspects encore non identifiés et fermé tous les points d'accès à son territoire. Le Kremlin a de son côté annoncé interrompre les prochaines sessions de négociations de paix. Kiev dément toute ingérence dans l'attentat et pointe du doigt une opération spéciale russe ou un règlement de compte entre chefs de guerre. Ces accusations invérifiables ont pour conséquence directe un regain de tension sur la ligne de front. Un soldat ukrainien a été blessé dimanche. On redoute une nouvelle explosion de violence une fois passé le lundi 3 septembre, jour de la rentrée scolaire.
Sébastien Gobert, correspondant de France Culture en Ukraine. De belles éclaircies sont prévues aujourd'hui sur l'Hexagone, malgré quelques nuages sur le nord-est et le nord de la France. Les températures, il fait ce matin 17 degrés à Strasbourg, 19 à Brest et Lille, 20 degrés à Paris, Grenoble, 24 près de la Méditerranée.